Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous européen de l'Europe Direct Strasbourg. C'est un plaisir de vous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace et en podcast sur les plateformes habituelles. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de la session plénière du mois d'avril et avons le plaisir de recevoir François Calfon, nouvellement élu député européen sous les couleurs du Parti Socialiste Place Publique. Il siège au sein du groupe des Socialistes et Démocrates ici au Parlement et s'investit particulièrement dans les dossiers liés au transport, au marché intérieur, aux échanges commerciaux avec les pays d'Amérique latine, notamment plus précisément du Mercosur. Bonjour Monsieur Calfon.
Bonjour.
Avec vous, nous allons revenir sur plusieurs grands sujets d'actualité, des défis du secteur automobile à la réforme du permis de conduire, en passant par les tensions commerciales avec les États-Unis. Nous parlerons aussi de la Turquie et de l'actualité politique en France avec la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des détournements de fonds publics du Parlement européen. François Calfon, pour commencer, vous avez été élu député européen en 2024. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le Parlement européen et son fonctionnement ? Correspond-il à l'idée que vous en aviez avant d'y siéger ? Avez-vous eu des surprises, bonnes ou mauvaises ?
Non, ben ça correspond à l'idée que je m'en faisais complètement. C'est-à-dire que cette fabrique du compromis, ça a été le titre d'ailleurs d'un documentaire que j'ai vu sous mes yeux. Ensuite, il y avait une formule qui était dans ma tête et que je confirme, c'est un peu l'Erasmus de la politique. Le Parlement européen croise tout le monde. C'est même assez curieux ou même assez cocasse dans un ascenseur d'imaginer la nationalité de la personne qui est en face de vous. Alors vous distinguez assez facilement les gens issus des anciens pays de l'Est ou les gens de la Scandinavie entre les deux. Et c'est toujours une surprise agréable d'entendre une fois parler espagnol, italien, échanger quelques mots avec les uns et les autres. Donc ça, c'est la première chose. Le vrai rapport d'étonnement, il n'est pas lié à l'institution européenne elle-même. Il est lié à la situation absolument hallucinante sur le plan géopolitique dans laquelle nous sommes. Et j'étais très heureux d'être devenu député européen à ce moment de ma vie, puisque j'ai fait beaucoup de politique en France et que je trouvais que des fois, c'est un peu irrespirable. Et je suis passionné par la situation dans laquelle nous sommes. À la minute où nous parlons, M. Trump est en train de fourbir ses armes dans la guerre commerciale. Nous parlons dans notre comité transport de la question de la mobilité militaire, c'est-à-dire comment on réarme l'Europe, comment il y a une nouvelle guerre froide en Europe. Et je suis aux premières loges de ce moment qu'on pourrait qualifier d'historique. À l'évidence, la période dans laquelle nous sommes sera dans les livres d'histoire. Et je construis avec d'autres, modestement, un 720e du Parlement européen, ces futures pages de l'histoire française, européenne et mondiale.
Parlons maintenant de vos choix. Vous avez décidé de siéger au sein de la commission des transports. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, par exemple ?
J'ai été 11 ans conseiller régional d'Île-de-France. J'étais président de la commission des transports en Île-de-France. Puis dans l'opposition, administrateur d'Île-de-France Mobilité. Je disais à mon collaborateur avant de venir ici que le budget des transports en Île-de-France, il est supérieur au budget de l'Europe sur les transports. Donc c'est dire à quel point je connais ces sujets de mobilité. Et puis la deuxième chose, c'est un peu, vous savez, vous faites comme Monsieur Jourdain de la prose sans le savoir. Eh bien, j'ai toujours fait des transports sans le savoir. Plus que moi-même, j'ai choisi les transports. Les transports m'ont choisi. Et en réalité, les transports ont à voir, y compris avec la politique. Il y a une étude de Jérôme Fourquet qui explique à quel point, quand vous êtes éloigné finalement d'un transport ferré lourd, c'est-à-dire d'un train, d'un tramway, d'un RER, vous êtes dépendant dans votre ruralité de votre petite voiture, vous n'avez pas de ligne de bus, et bien vous votez pour les populistes et l'extrême droite. Si vous êtes au cœur des métropoles, que les transports s'offrent à vous, qu'il y a ce brassage social qui se fait, alors vous êtes plus enclin à être finalement progressiste. Donc vous voyez à quel point un socialiste, il est pour les transports publics parce que ça rapproche les hommes et les femmes et que ça rend les gens plus ouverts sur le plan des mentalités. Donc je fais une œuvre utile pour le progressisme de la société.
Alors on sait que les transports sont en pleine mutation aussi, notamment avec la transition écologique. La Commission européenne a récemment présenté un plan d'action pour garantir la compétitivité du secteur automobile. Déjà, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette proposition, sur en quoi ça consiste, et avoir votre analyse sur ce plan d'aide ?
Alors en fait, il faut revenir dans le mandat précédent. On a décidé le pacte vert, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050 de l'Union européenne. Et ça passait par beaucoup de choses, mais notamment par les transports qui sont responsables de 25% des émissions de CO2. Bon, il y a des choix radicaux qui ont été pris, et d'ailleurs, l'industrie automobile a transformé, a exercé des transformations considérables. Mais maintenant, nous sommes dans une situation où il faut tenir les deux bouts de l'omelette. D'abord, faire en sorte que ces véhicules soient vendus, peut-être faire preuve de plus de pragmatisme, faire en sorte que l'industrie automobile, eh bien, il n'y ait pas trop de casse pour les travailleurs. Hein, à Bruxelles, une usine Audi a fermé, on pourrait parler des fonderies de Bretagne. Et donc, il faut accompagner cette transformation, faire preuve de pragmatisme et, comme dirait l'autre, et en même temps tenir les objectifs de la décarbonation. Et c'est à ça, quelque part, on nous a construit un bel objectif. Et maintenant, il faut qu'on rentre dans le moteur de la machine pour faire en sorte qu'il se réalise. C'est l'enjeu, finalement, de ce plan automobile. Alors, je n'ai pas bien répondu à votre question comme un bon élève. Ils ont trouvé deux pépites pour faire en sorte que ces voitures se vendent et que ça fonctionne. D'abord, de mettre en place un système pour les véhicules d'entreprise d'incitation à décarboner, puisque 60% des véhicules
c'est
vendus en Europe...
C'est l'histoire de leasing, c'est ça ?
Non, c'est simplement les véhicules d'entreprise. Oui, c'est dans le cadre du leasing, mais les 60% des véhicules qui sortent d'usine vont aux flottes d'entreprise. Donc l'idée, c'est d'accélérer la décarbonation. Et comme les véhicules électriques sont chers, eh bien, en deuxième main, d'une certaine manière, les gens pourraient se payer les véhicules qui, en première intention, sont achetés par les entreprises pour leurs collaborateurs. Le deuxième aspect, on connaît ça en France, c'est le leasing social. C'est grâce à des subventions permettre à des personnes de conditions modestes de pouvoir acheter un véhicule décarboné parce qu'aujourd'hui ils sont chers. Il y a encore 20 ans, un véhicule coûtait entre 8 et 10 000 euros, un petit véhicule. Maintenant, c'est plutôt entre 18 000 et 25 000 euros. Pas besoin d'être grand clair pour comprendre que les gens ne peuvent pas se le payer sans subvention. Et l'Europe va encourager ce système de leasing social.
Alors, revenons encore sur les transports. Il y a une décision qui a été prise. Il y a ce qu'on appelle un trilogue, pour expliquer à nos auditeurs. Il y a les trois institutions européennes codécisionnelles, on va dire la Commission qui propose, le Parlement qui vote et les États membres qui votent, qui se sont réunis pour adopter une directive, je crois, je ne sais plus si c'est un règlement ou une directive, sur le permis de conduire. Mmh. Alors, au départ, j'avais cru comprendre que c'était aussi pour équilibrer un peu, notamment par rapport à des tests qui pourraient être faits par des personnes pour voir leur capacité à conduire, etc. Ça, c'est plus dans le texte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte ?
Alors, et c'est plus dans le texte. Là, vous me posez un tout petit peu une colle, à vrai dire, parce que pour l'instant, il n'est pas adopté. Ouais, il n'est pas adopté. Mais effectivement, la question en général de ce type de réglementation et de celle-là en particulier, vous y avez insisté, c'est un bon équilibre entre la santé des utilisateurs et c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. Hein, le fait que vous n'avez pas forcément toutes vos capacités après un certain âge et qui est imposé comme certains États membres le font déjà finalement. C'était aligner vers le haut les exigences en matière de santé qui imposait des examens, des visites médicales obligatoires pour les personnes. Alors la question de l'acceptabilité, je l'ai dit tout à l'heure sur le véhicule électrique et son prix, quand vous avez des personnes âgées souvent dans les petites zones rurales et tout le monde voit de quoi je parle, qui n'ont que leur petite voiture pour aller faire leurs courses ou tout simplement aller visiter un proche, c'est sûr que c'est très difficile. Donc dans le texte, je n'en ai pas le détail, donc je suis très honnête avec vous, et c'est bien le juste équilibre entre la santé des utilisateurs, la sécurité routière et le caractère pratique.
Je crois qu'en fait, ils ont laissé aux États membres le choix un petit peu de faire ce qu'ils souhaitaient sur le sujet, tout en ne le sortant pas du texte, en disant voilà, il y a des questions qui se posent. Mais
on a un peu botté en touche, et de toute façon, en matière européenne, c'est un peu toujours le sujet, puisque vous avez aussi un texte dans le paquet routier sur est-ce qu'il faut abaisser, moi je suis contre, le permis de conduire pour les conducteurs de poids lourds. Aujourd'hui, les plus de 40 tonnes, c'est 21 ans. Et demain, la Commission européenne, poussée par un certain nombre de lobbies, voudrait, puisqu'il y a un sujet d'attractivité de ces métiers, permettre à des jeunes personnes de 18 ans, hommes ou femmes, de pouvoir conduire des camions. Et dans le même temps, figurez-vous, ils voudraient que les camions, vous savez, ce qu'on appelle autrefois les 38 tonnes, les semi-remorques qui sont maintenant à 44 tonnes, passent à 60 tonnes, c'est des super camions. Donc imaginez sur la route un jeune homme qui vient d'avoir 18 ans conduire ces espèces de monstres, naturellement pour des raisons de sécurité routière, mais aussi de pollution, nous y opposons.
Alors, on a parlé de mobilité des conducteurs avec cette réforme du permis de conduire. Parlons maintenant d'une autre mobilité, là où vous êtes déjà beaucoup plus actif, c'est celle bien plus stratégique, celle des troupes et du matériel militaire en Europe. Quelles sont les, parce qu'il y a des faiblesses, quelles sont les principales faiblesses en matière de logistique militaire et comment l'Union européenne peut-elle y remédier ?
Alors j'étais avec mon collègue Gomard, qui est chez les Républicains, mais qui est un ancien militaire, un général de haut rang, qui dit « la mobilité militaire, c'est le rail ». Et c'est tellement vrai qu'en réalité, notre réseau ferroviaire européen, il va de l'ouest vers l'est, pour préparer les guerres, parce que les guerres venaient
de l'Est, ouais.
Venaient de l'Est, oui, le front de l'Est, hein, depuis quasiment toujours. Et en réalité, les bénéfices de la paix après la chute du mur de Berlin, c'est qu'on n'a plus entretenu notre réseau ferroviaire. Et donc, la Commission européenne avait chiffré, il y a quelques années de ça, je crois que c'était en 2021, à 6,7 milliards les besoins de remise à niveau de notre réseau ferroviaire pour des sujets militaires. Ensuite, les arbitrages...
Il faudrait peut-être expliquer c'est quoi la difficulté, qu'est-ce qui pose le problème.
Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a eu une expérimentation qui a été faite suite à la guerre en Ukraine. C'est pas une expérimentation, c'est en grandeur réelle. Les chars français Leclerc, qui pèsent 56 tonnes, donc c'est un certain poids, devaient rejoindre leur base en Roumanie, la base de l'OTAN, à la frontière de l'Union européenne, exposée à la Russie. Et c'est finalement ces tanks qui ont été portés sur leur porte-char, ont mis 45 jours à traverser l'Union européenne. Je vous le confirme, c'est une information qui est sortie d'une audition de l'Assemblée nationale, de la Commission de la Défense. 45 jours, il en faudrait moins pour la Russie pour envahir l'un des pays de l'Union européenne. Et qu'est-ce qui était en cause ? Eh bien, la bureaucratie. Un pays tiers à la frontière est de la France, que je ne citerai pas ici...
En Alsace, oui.
En Alsace, vous connaissez bien ce pays tiers, a multiplié les tracasseries administratives pour que les tanks ne passent pas, ou tout simplement parce qu'il y avait une bureaucratie qui était présente. Les ponts, les tunnels ne supportaient pas des wagons de fret avec des tanks aussi lourds. Les tanks, ils ont quasiment pris 40% de poids en 30 ou 40 ans. Bref, rien n'est adapté dans nos infrastructures. Monsieur Tsitsikostas a chiffré à 500 le nombre d'infrastructures qu'il faudrait adapter.
C'est le commissaire au transport, hein, c'est ça.
Au transport, absolument. Et à 70 milliards d'euros, la remise à niveau du système ferroviaire pour supporter la mobilité militaire. Que vous ayez un ordre de grandeur à l'esprit, le budget pour 6 ans en matière de transport de l'Union européenne, pour tout, y compris en matière d'énergie, c'est une trentaine de milliards d'euros. Donc rien que pour la mobilité militaire, il faudrait 70 milliards d'euros. Et nous demandons, pas plus tard qu'hier, pas plus tard qu'aujourd'hui, que dans les 800 milliards d'euros annoncés par Mme von der Leyen pour le plan Rearm EU, il y ait une partie qui soit fléchée sur la mobilité militaire. C'est indispensable parce que vous pouvez avoir les meilleures armes du monde. Si elle reste à Verdun, si elle reste à Strasbourg, si elle reste à Metz, parce qu'il y avait aussi beaucoup de garnisons dans l'Est, c'est une vieille tradition, et qu'elles ne peuvent pas rejoindre le front de l'Est, bah vous avez perdu la guerre.
Mais revenons sur l'annonce par Donald Trump de nouveaux droits de douane. Hein. On est dans une journée où ça devrait arriver, notamment sur les voitures importées aux États-Unis. Donc ça a provoqué une levée de boucliers en Europe, notamment chez nos amis allemands aussi, parce qu'ils exportent beaucoup plus que nous vers les États-Unis. Quelles sont pour vous vos attentes vis-à-vis de l'Union européenne ? Comment l'Union européenne doit réagir face à ces hausses de droits de douane ?
Alors moi, pour réagir, j'ai besoin, ce que je ne comprends toujours pas en réalité, hein, j'ai besoin de comprendre la rationalité de la personne qui est en face de moi. Et je ne comprends pas la rationalité de Donald Trump, et ce n'est pas simplement dans la caricature et de ses outrances verbales. Et je ne vois pas où est-ce qu'il emmène l'Amérique. En 2018, il y avait déjà eu une montée des droits de douane et l'Union européenne avait réagi par un paquet de sanctions très symboliques de taxes sur le bourbon, donc c'est le whisky américain, sur les Harley Davidson. Il y avait eu une sorte d'agrément, de Yalta, comme on dit dans un langage imagé, qui avait fait qu'un accord avait été passé entre les États-Unis et l'Union européenne. Aujourd'hui, on ne semble pas du tout être dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on est dans quelqu'un qui veut éteindre le commerce international, le commerce mondial. Je parlais à ma collègue Chloé Ridel qui vient de Washington et qui a parlé avec des think tanks, n'est-ce pas, très proches de Donald Trump. En gros, ce qu'ils disent, eux, donc c'est peut-être une tentative d'explication de leur rationalité, ils disent on a perdu la bataille du commerce mondial, donc maintenant, on est un pays continent, on se protège. Mais à ce compte-là, quand vous voyez les premiers effets de la politique de Donald Trump, y compris aux États-Unis, bah, vous avez Wall Street qui se casse la figure, hein, en chute libre, vous avez le dollar qui se déprécie face à l'euro. Bref, je ne vois aucune bonne nouvelle, y compris pour l'industrie américaine.
C'est pas le but.
Et pensez
que...
à Monsieur Musk avec ses voitures électriques sur lesquelles il avait une avance technologique énorme. Eh bien, j'ai vu les chiffres de vente en Europe de Tesla. C'est moins 46% en un mois. Donc, je ne comprends pas leur logique. Ce qui est clair, c'est que, pour répondre précisément à votre question, est-ce que si ce soir, ce qu'il appelle le Liberation Day, toujours avec des langages fleuris et imagés, est-ce que si ce soir, il annonce 200%, il faut que l'Union européenne annonce 400%, je dis non. La deuxième chose qu'il faut garder présente à l'esprit, je crois que c'est vraiment le plus important, c'est que on sait que le président finlandais est allé faire du golf, n'est-ce pas, avec Monsieur Musk dans sa résidence de Floride, que Madame Meloni dit, bah finalement les États-Unis de Trump et l'Italie de moi-même, on peut s'entendre. Bref, c'est qu'il y a une forme de dislocation. C'est ce que visent les États-Unis, des pays qui finalement préservent plutôt leur intérêt national que l'intérêt de l'Union européenne. Donc il faut trouver la bonne balance. C'est une réponse un peu compliquée.
Mais les droits de douane, ils seront européens. Je veux dire, on est. Sanctions américaines, il va pas le faire par rapport à l'Italie, par rapport à l'Allemagne.
Les sanctions américaines, elles peuvent être ciblées. Et aujourd'hui, les sanctions américaines, c'est sur l'agroalimentaire, sur les vins et spiritueux, tiens, comme par hasard. Bref, sur la France en particulier, qui apparaît comme la pointe du glaive.
L'automobile pour les Allemands, quand même.
Pardon ?
L'automobile pour les Allemands, quand même.
Oui, mais je pense que les Allemands vont essayer. Et ils influencent Mme von der Leyen. Il y a eu des messages sur lesquels. De modération quant aux réactions vont essayer finalement de préserver l'industrie automobile allemande en faisant en sorte que nous ne soyons pas dans la surenchère. Bref, que nous fassions le dos rond. Et je pense que ça n'est pas une bonne stratégie.
Donc l'Europe doit donc faire face au protectionnisme américain croissant. Elle cherche aussi à renforcer ses liens commerciaux avec d'autres régions du monde. On a parlé tout à l'heure en introduction du Mercosur. Vous êtes membre de la délégation du Mercosur. Vous avez exprimé des réserves sur cet accord, vous, avec l'Union européenne. Déjà, pourquoi ? Et est-ce que c'est finalement pas plus juste de se dire, si les États-Unis se ferment, est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres partenaires ?
Ça, c'était avant, parce qu'en fait, le temps s'accélère. Je tiens à dire quelque chose qui est très fort pour moi. Je suis un social-démocrate. Je crois à la création de richesses, je crois aux échanges commerciaux. Donc, je ne suis pas contre tous les accords commerciaux. Et tout à l'heure, il y avait encore dans les résolutions un certain nombre d'amendements. J'ai voté ceux qui s'opposaient au volant agricole du Mercosur. Ça me permet de vous donner un premier élément de réponse. Mais je ne suis pas contre toute coopération avec les pays du Mercosur, y compris toute coopération en matière commerciale. Ce qui est en cause, c'est essentiellement le volet agricole, avec notamment des impacts de monoculture sur la déforestation. Je pense à la forêt amazonienne en particulier. Je pense à l'élevage intensif du bétail, notamment des bœufs dans des fermes usines avec des intrants chimiques dangereux. Je pense à des hormones de croissance interdites chez nous. Je pense également à la question de la traçabilité, puisque depuis la crise de la vache folle en France, je ne sais pas si d'aucuns s'en souviennent, eh bien, quand vous allez dans un supermarché, n'importe lequel, ou chez votre boucher, si vous demandez à votre boucher d'où vient la viande, il saura vous dire exactement si elle avait été en France, que c'est dans telle ferme avec tel agriculteur. Eh bien, on va importer du Brésil, d'Argentine ou de l'Uruguay un certain nombre de viandes dont il n'y a aucune traçabilité, c'est-à-dire que la bête elle-même, on ne sait pas d'où elle vient. Et ça pose un problème. Donc, il faut absolument revenir sur le volet agricole du Mercosur. Il y a une deuxième partie dans votre question. Est-ce que nous avons intérêt à développer notre commerce ailleurs pour compenser quelque part les herses et les murs qui se construisent sur le plan commercial ? Il y a d'abord la question de l'intensification du commerce à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, nous ne sommes pas pour la dérégulation, ça c'est omnibus, mais nous sommes pour la simplification. Je vous ai donné un exemple de bureaucratie sur la mobilité militaire. Il y a de la bureaucratie partout. Donc, on peut lever la bureaucratie sans pour autant déréguler. Donc ça, c'est la première réponse face aux États-Unis qui se ferment ou à la Chine qui est fermée. Il y a le marché intérieur de 450 millions de personnes. Et puis, c'est sûr, il faut construire des relations commerciales avec d'autres pays. Donc, on a signé le CETA à l'époque, mes prédécesseurs...
Le Canada, oui.
Il est plutôt, finalement, approuvé. Il est plutôt positif pour l'Union européenne.
Il y a eu des rapports qui montrent qu'il est plutôt
bien
à l'avantage de l'Union
pour la
européenne.
France en particulier. Je pense qu'il faut intensifier la relation amicale et commerciale avec le Canada. Je pense que oui, il va falloir dépasser les problèmes posés par le volet agricole du Mercosur. Et je pense plus généralement qu'on mésestime d'une certaine manière certaines zones d'émergence. Alors je discutais par exemple avec les industries des transports ferroviaires hier, l'Inde est le premier marché en dehors de la France pour Alstom. Eh bien, l'Inde mérite qu'on s'y intéresse, qu'on ait des politiques d'échanges commerciaux, mais également l'Afrique.
On a aussi des problèmes.
A renouvelé son parc de TGV, le Maroc. Alstom a gagné. Donc, nous pouvons, comme ça, trouver toute une zone, des zones avec les valeurs qui sont les nôtres, qui ne sont pas le poutinisme, qui ne sont pas le trumpisme, d'échanges entre les peuples qui peuvent s'entendre, mais aussi faire du commerce ensemble.
Il y a également un autre sujet. Vous co-présidez ce qu'on appelle un intergroupe, on va peut-être expliquer à nos auditeurs, qui s'appelle Ciel et Espace, c'est-à-dire ça regroupe des députés de différents bords politiques sur une thématique précise. Là, c'est donc
le ciel et l'espace.
Voilà, le ciel et l'espace. Alors, Moi, j'aurais une question là aussi, parce que là aussi, il y a un problème avec Trump et avec Poutine, puisqu'il y avait des liens avec, avec la Russie sur ces questions-là et des liens avec les États-Unis et maintenant avec Musk. Que peut faire déjà l'Union européenne sur ces questions ? Est-ce qu'elle a les outils ? Est-ce qu'elle a les moyens ? On se souvient de Galiléo, par exemple. On se souvient de Copernicus. On a fait des choses. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses ?
Alors déjà, puisqu'on est français avant d'être européen, c'est pas interdit de le dire, si demain il y a un théâtre d'opération militaire, j'en parlais avec le général Gomard avant de venir ici, la France est autonome. La France est autonome pour cartographier un théâtre d'opération, pour connaître les mouvements de troupes, pour orienter les tirs de missiles sur un terrain. Mais ça n'est pas le cas des autres pays de l'Union européenne. Et donc, en matière spatiale, pour parler de la partie spatiale, la prise de conscience qu'il faut faire partager par nos partenaires européens, c'est à quel point il est important d'avoir Ariane, un lanceur européen, ce lanceur souverain, parce que si vous dépendez des Russes, on n'en parle même plus, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de coopération, mais des lanceurs de M. Musk, quand vous allez lancer un satellite d'observation militaire, vous êtes dépendant. Et je ne suis pas dans le fantasme. Regardez ce qui s'est passé avec Starlink, qui sert aux opérations militaires des Ukrainiens. Un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, une quinzaine de jours, M. Musk a menacé d'éteindre Starlink pour l'armée ukrainienne, bien que la Pologne ait payé 50 millions de dollars pour avoir ce service. Donc il est important, et ça c'est l'avenir du spatial, que nous puissions bénéficier, parce qu'il faut quand même qu'on se dise la vérité. Ariane, c'est 6 lancements l'an dernier, 5 à 6. Les SpaceX, les lanceurs de M. Musk, c'est 600 lancements. Donc un retard énorme a été pris.
Mais c'est des satellites un peu moins lourds.
Alors voilà, on y vient. Et donc c'est pour ça qu'on a finalement une alternative européenne avec Eutelsat, qui aujourd'hui a 600 satellites d'orbite basse qui tournent autour de la planète, là où Starlink en a 6000. Eh bien, il est question, notamment pour tous les mouvements tactiques sur le sol, mais aussi pour les opérations humanitaires, que l'Europe soit souveraine en matière de satellites d'orbite basse qui sont nécessaires à la communication, nécessaires à l'Internet. Et j'espère qu'il y aura une prise de conscience, parce que ne faisons pas dans la langue de bois. Ces dernières années, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Allemagne, il y a eu un tir d'une fusée, échouée d'ailleurs, je le regrette, d'une start-up allemande avec une fusée propriétaire pour tirer en orbite basse. Eh bien, elle s'était désinvestie du programme Ariane, en disant bah, finalement Ariane n'a d'européen que le nom, ça ne sert que les intérêts français. Eh bien, je souhaite que la période que nous traversons permette à nos partenaires européens de comprendre à quel point les programmes souverains européens de développement spatial profitent à tous les Européens et construisent notre souveraineté, notre sécurité. Parce que je ne sais pas, moi, où sera M. Trump demain, où sera M. Musk après-demain. Par contre, je sais que tout de suite, nous sommes sous la menace de l'arrêt de la couverture satellitaire par M. Musk, qui pose des problèmes énormes demain, aujourd'hui, en Ukraine, aux soldats ukrainiens.
Alors, il y a un dernier sujet d'actualité que j'aimerais aborder avec vous. C'est un sujet qui concerne plus la France, mais qui finalement concerne aussi l'Europe. C'est la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics. Cette décision a suscité des réactions contrastées, certains dénonçant une justice politique, d'autres défendant son impartialité de cette justice. J'aimerais avoir votre réaction, mais quand même rappeler à nos auditeurs que c'est un détournement d'abord des fonds européens. C'est un peu comme vous, si vous aviez des assistants.
Non, c'est pas comme moi.
Non, ce serait un peu comme vous. Je voulais dire, c'est un peu pour expliquer à nos auditeurs. Voilà, c'est un peu pour expliquer à nos auditeurs. Vous auriez des assistants parlementaires, vous leur ferez travailler sur autre chose que sur vos missions ici au Parlement européen, peut-être. Okay. Voilà. Et donc ça a été fait à grande échelle. Il y a eu une condamnation. J'aimerais savoir un petit peu avoir votre regard sur cette condamnation.
Alors déjà, on va commencer par le Parlement européen puisque nous y sommes. C'est pas finalement une affaire des députés européens, l'affaire Le Pen. C'est une affaire au début qui concerne complètement l'institution européenne, qui a été volé, floué de 4 millions d'euros à des fins personnelles. Et je tiens à dire, parce qu'il y a une sorte de réécriture de l'histoire par des médias complaisants, quand vous payez le majordome de Jean-Marie Le Pen avec un salaire d'assistant parlementaire, il n'y a rien. C'est même pas l'utilisation pour la politique. Il n'y a rien à voir avec la politique. Quand vous faites en sorte, finalement, que votre famille soit payée, le conjoint d'un tel, etc., ça n'a rien à voir avec la politique. Deuxième chose sur les faits, pour que les gens comprennent. Ça se voit pas parce que c'est de la radio. Ici, j'ai un badge. Ma collaboratrice qui est présente, elle a un badge. Vous avez un badge. Vous avez des gens qui ont été collaborateurs 5 ans du Parlement européen, vous vous rendez compte, qui n'ont jamais, je vous dis bien, jamais badgé. En clair, ça veut dire qu'ils ne sont jamais venus. Ni à Bruxelles, ni à Strasbourg. Et ils ont été payés par le Parlement européen. Moi, j'appelle ça du vol. C'est du vol caractérisé.
Et c'est ce qu'a décidé le tribunal.
D'accord. Eh bien, je le rappelle, parce qu'il n'y a pas de théorie du complot. Ils ont volé l'argent dans les poches des Européens. Et maintenant, tous ces gens jouent les victimes. Eh bien, la première chose que j'ai envie de dire, et que je dis avec une force très importante, c'est que quand vous voulez saper l'État de droit, saper la démocratie, qu'est-ce que vous faites? Vous sapez les institutions. Ils attaquent les juges. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Dans tous les pays, on veut déstabiliser M. Trump. Quand il a envahi le Capitole avec finalement ses supporters, il a attaqué la justice. Eh bien, nous devons, nous les démocrates, nous lever pour défendre la justice. Alors ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce que la décision doit être exécutoire immédiatement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'une part la condamnation, d'autre part l'inéligibilité? J'ai envie de dire que c'est les mêmes qui nous disent du matin au soir sur les chaînes d'information continue à quel point quelqu'un qui a volé une poule, quelqu'un qui a volé un scooter... doit subir une double peine, peut-être que c'est justifié, je ne le conteste pas, d'aller en prison et d'être finalement expulsé vers un autre territoire. Eh bien, suivant que vous soyez puissant ou misérable, suivant que vous soyez blanc ou d'une autre couleur, alors il faudrait une justice différente. Et ce serait un complot que ces gens, finalement, parce qu'on a entendu la même antienne sur M. Sarkozy, que ces gens qui ont floué, volé, détourné, n'aient pas les rigueurs de la loi, alors que ce sont les mêmes qui expliquent qu'il ne faut pas d'aménagement de peine pour les détenus ou les délinquants. Moi, je peux avoir de la compréhension, de la compassion pour ceux qui, finalement, d'abord sont les victimes, mais aussi accompagner ceux qui sont les coupables. Mais enfin, que la justice passe. Et le fait même que la justice passe leur est insupportable. Eh bien, ça, je ne le supporte pas.
Alors, on va terminer sur une note un peu plus légère, avec une série de questions rapides. Le principe est simple. Je vous donne deux options. Un choix rapide et...
Une explication, une phrase, pas plus.
Petit, voilà.
Entre nous, entre deux.
Alors voilà, c'est une chronique qui nous permet un peu mieux vous connaître. Vous êtes plutôt café ou thé?
Un café.
Grand discours...
Et jusqu'à tard dans la journée, ce qui est un des problèmes.
Grand discours dans l'hémicycle ou tractage sur un marché?
Les deux. S'il n'y a pas la politique d'en haut et la politique d'en bas.
Mandat européen ou engagement local?
Je veux dire, là, si je dois répondre en sincérité, en ce moment, c'est mandat européen. Je suis assez passionné, d'ailleurs, ça doit s'entendre.
Plutôt agenda papier ou tout dans le téléphone?
Il n'y a plus de papier. Tout dans le téléphone sur des boucles.
Alors vous, hein, qui êtes donc, comme vous l'avez dit, un social-démocrate, vous êtes plutôt Jean Jaurès ou Léon Blum?
Ben les deux, ben je prends tout. Mais la cote de cœur, c'est plutôt Léon Blum, parce que c'est lui qui a fait le congrès de Tours, qui a séparé finalement ceux qui étaient que dans la radicalité et ceux qui étaient les socialistes. Donc c'est Léon Blum, et puis c'est Léon Blum qui a subi le procès d'Orion dans cette période noire qui est celle de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme.
Et vacances au bord de la plage ou vacances en randonnée?
Eh bien, les deux. Figurez-vous, j'adore la mer. Je regarde si je peux me retourner. Ça me rappelle mon enfance quand je faisais des châteaux de sable. Et la randonnée, figurez-vous, j'en ai toujours fait. Et puisque je sais que vous êtes sur toutes les antennes confessionnelles, j'ai fait le chemin de Compostelle qui m'a amené jusque-là et qui est maintenant contenu comme un des grands chemins culturels européens.
Vous l'avez fait en entier?
Ah non, je ne l'ai pas fait en entier, parce que je voulais arriver à Compostelle, donc j'ai triché. Je suis parti d'Espagne, mais j'ai quand même marché 20 jours jusqu'à Compostelle. Voilà. Et la marche, elle est sportive, mais elle est aussi spirituelle et philosophique.
Vous êtes plutôt fédéralisme ou Europe des nations?
Eh bien, figurez-vous, les deux, mon capitaine, je ne renoncerai jamais à la France. Mais je pense que l'échelle du monde et l'échelle du conflit justifient qu'il y ait une forme de dépassement. On parlait de la défense tout à l'heure. Il y a encore 5 ou 10 ans, je vous aurais dit la défense, ça ne se partage pas. Et maintenant, je suis convaincu que par nécessité, réalité, on va la partager.
Et on va rester dans les institutions. Révision de la 5e République ou révision des traités européens, notamment, par exemple, du vote à l'unanimité au sein du Conseil avec les États?
Révision de la 5e République, c'est sûr, parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne en démocratie. Puis parce que la 5e République, c'est le fait majoritaire, il n'y en a plus. Donc il y a des institutions qui sont inadaptées. Quant au traité et la règle de l'unanimité, il y a plein de matières où ça ne marche pas. Ne serait-ce qu'on ne peut pas se permettre que M. Orban bloque par l'unanimité une aide à l'Ukraine de 50 milliards d'euros. Ce n'est pas possible. On a au sein de l'Union européenne des gens qui sont ennemis de l'Union européenne. Donc il va bien falloir qu'il y ait des majorités qualifiées.
Et je terminerai. Un bon livre politique ou plutôt un polar scandinave?
Eh ben les deux, là encore. Mais pour être honnête, le polar scandinave, je le regarde sur Netflix où il y a quand même des séries absolument démentes. Je pense une qui s'appelle Le Pont, qui est une série danoise.
Ouais, c'est The Bridge, je crois.
The Bridge, voilà, je dis en français, The Bridge, c'est mieux. Et d'ailleurs, ça montre un pont, hein, puisque le Netflix, c'est quand même de l'image, ça montre ce fameux pont que je ne connaissais pas comme ouvrage d'art. J'ai d'ailleurs, puisqu'on est dans les confidences, j'ai un coordinateur socialiste suédois. J'ai exposé, il a réagi en riant, donc je ne sais pas si j'avais raison, exposé, c'est comment vous faites pour avoir le génie du polar scandinave, parce que c'est des peuples très, très froids, etc. Je dis, est-ce que ce n'est pas finalement la résultante de vos sociétés protestantes où vous n'êtes pas démonstratif, donc dans votre tête, vous imaginez toute une série de choses, comment dire, extrêmement noires, dark, sur le plan criminel. Il a répondu en rigolant, mais j'ai pas eu de réponse convaincante. Mais j'aime bien ces séries, et d'ailleurs, c'est malheureusement, parfois le réel dépasse les séries. Je pense au moment où nous parlons au drame d'Utøya, n'est-ce pas, où vous aviez un tueur dont je ne reprononcerai pas le nom, Breivik, quelque chose comme ça, qui avait massacré des jeunes socialistes norvégiens qui étaient en camp d'été. Donc voilà, la réalité dépasse parfois la fiction. Donc finalement, c'est quand même beaucoup le roman noir scandinave.
Ben merci Monsieur Calfon pour nous avoir consacré ce temps, pour avoir joué le jeu de cet entre-deux où on pouvait vous poser des petites questions et d'avoir été franc avec nous.
Oui, j'ai essayé d'être le plus spontané possible.
Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.
Merci.
Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Saint-Germain.